Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
Sophie Gaillard.
Sophie Gaillard.
Il suffit de demander sur Radio Lac.
Bonjour Eric Ashkar.
Bonjour Sophie.
Alors, vous nous parlez aujourd'hui du télescope et de la lunette. Quelle est la différence entre les deux ?
Alors, c'est très simple. Une lunette astronomique est en fait un instrument optique qui est doté de deux lentilles. Une à l'entrée qui va capter la lumière du ciel et l'autre à la sortie où on va mettre son œil. Alors que le télescope, lui, il est doté d'un miroir qui va réfléchir la lumière venant du ciel et qui va repartir sur une lentille où on va mettre son œil pour observer. Donc, la différence, c'est principalement pour la lunette, on a deux lentilles et pour le télescope, on a un miroir et une lentille. Et la différence, en fait, vient du fait qu'avec un télescope, on peut avoir un diamètre beaucoup plus grand, puisque si on augmente sur une lunette la lentille qui permet de capter la lumière avec un très grand diamètre, 1 mètre de diamètre par exemple, la lentille sera tellement lourde qu'elle se déformera sous son propre poids. Donc pour les instruments de grande taille, on a eu la chance d'avoir Isaac Newton qui a inventé le télescope, qui a compris le potentiel de cet instrument et qui fait qu'aujourd'hui, tous les observatoires de la planète que l'on a sont tous dotés de télescopes puisque le fait d'avoir un miroir permet d'avoir un très grand diamètre à moindre poids contrairement aux lentilles. Et donc avec ces observatoires, on va observer les confins de l'univers et on va faire toutes les découvertes qu'on connaît, ainsi que le télescope spatial Hubble dont on connaît le nom.
Oui.
Celui-ci est aussi doté d'un miroir, donc il est également dans l'espace. Donc c'est une technologie, le télescope a été inventé au XVIIe siècle, alors que la lunette a été inventée avant le télescope. D'ailleurs, Galilée, qui a découvert les lunes de Jupiter, qui a découvert les phases de Vénus, ses découvertes, en l'occurrence les lunes de Jupiter, datent de 1610. Et Isaac Newton, lui, conçoit le télescope dans la deuxième partie du XVIIe siècle, donc c'est-à-dire à peu près une cinquantaine d'années plus tard. Mmh. Et c'est grâce avec cette découverte d'Isaac Newton que maintenant nous sommes outillés pour la recherche scientifique dans le monde entier.
Alors si on veut regarder le ciel, hein, qu'est-ce que vous nous conseillez pour une première fois ?
Alors pour une première fois, la paire de jumelles, c'est un outil extraordinaire.
D'accord. Ok, simplement. Et puis si on en a une, ça évite d'acheter un télescope ou une lunette, évidemment.
Ouais. Alors, ça permet d'avoir ce qu'on appelle un marchepied, c'est-à-dire c'est un premier instrument qui va permettre de voir le relief de la Lune, qui va permettre de voir des amas d'étoiles. Alors bien entendu, il faut aller vers un ciel noir pour les étoiles. La Lune, par contre, on pourrait l'observer de ville. Alors que si l'on, à un certain moment, on se dit « Ah, je suis frustré, je voudrais voir plus gros », effectivement, à ce moment-là, le marchepied va être dépassé, c'est-à-dire qu'on passera de la jumelle à la lunette ou le télescope, et donc on pourra avoir un instrument, pas forcément de grosse taille, puisqu'un grossissement de 40 fois, soit avec un télescope, soit avec une lunette, est suffisant pour voir les anneaux de Saturne. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros instrument pour regarder les planètes et la Lune. Avec un grossissement de 40 à 50 fois, on peut voir les objets célestes. Certes, ils seront petits, mais on verra les anneaux de Saturne, on verra les lunes de Jupiter et on verra les cratères de la Lune.
Et voilà, vous savez tout. Grâce à Eric Ashkar, comme d'habitude, l'astronomie a sa place dans Il suffit de demander. Et c'est à retrouver en podcast sur radiolac.ch. Merci beaucoup Eric et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Sophie, à la semaine prochaine.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
What you've been missing out. You gotta stay.
Magnétoscope
de Fabien et Carole.
Allez, aujourd'hui, on va parler de nos vêtements dans l'étude du jour. Alors, pas ceux qu'on utilise au quotidien, qu'on utilise beaucoup, mais plutôt ceux que l'on laisse traîner dans les placards.
Ouais.
Voilà, il y a toujours des vêtements qui sont là depuis des années, qu'on n'a jamais mis.
Avec l'étiquette encore.
Ouais, certains même qui ont été achetés et jamais utilisés. On va parler justement de nos rapports aux vêtements et notamment aux fringues usagées. Avec tout d'abord un chiffre. En Suisse, on achète en moyenne 60 vêtements par an.
60
par personne, par habitant.
Ça me paraît énorme.
Mais moi, je trouve ça dingue.
Je suis c'est pas quand même, 60, moi.
C'est quand même beaucoup. Si on ramène ça au nombre de mois, finalement, entre 3 et 5 vêtements par mois. C'est énorme.
Va falloir que je me dépêche pour attraper la moyenne. Hein. Je veux dire, j'en suis loin.
Alors, peut-être qu'il y a des gens comme toi et moi qui en sont loin. Peut-être que d'autres achètent beaucoup, tu vois. Donc, ça fait une sorte de moyenne. Et cette étude pointe aussi du doigt le mauvais recyclage de ces vêtements, parce que la qualité des vêtements que l'on achète diminue de plus en plus.
Alors c'est vrai que
souvent on achète à bas prix, on veut acheter beaucoup, on veut avoir beaucoup de vêtements différents.
Ouais.
Donc forcément on achète un peu moins cher et ces vêtements pas chers, eh bien malheureusement sont d'une qualité qui ne permet pas toujours d'être bien recyclés.
Tu sais ce qu'on dit, le pas cher c'est déjà trop cher.
Exactement, quand c'est de mauvaise qualité, effectivement. Et souvent on a bonne conscience en mettant ces vêtements usagés dans une benne, pensant qu'ils vont être recyclés,
ouais,
qu'ils vont être envoyés au bout du monde, eh bien, ce n'est malheureusement pas toujours le cas.
Ouais.
Ça l'est que dans quelques rares cas, finalement, où les vêtements sont suffisamment de qualité pour pouvoir être recyclés. Beaucoup d'entre eux sont simplement incinérés. Et selon des organisations environnementales comme WWF ou Greenpeace, eh bien, si on portait nos vêtements un peu plus longtemps, si on les utilisait plus longtemps, qu'on en achèterait un peu moins, eh bien on pourrait économiser 1,5 million de tonnes de CO2 par an en Suisse.
C'est énorme.
Je parle uniquement de la Suisse. Tu vois,
c'est quand même
donc
conséquent, ouais.
On n'imagine pas l'impact finalement de ces vêtements sur notre planète. Voilà, donc les organisations non gouvernementales, conseillent de porter les vêtements 3 ans de plus.
Voilà, très bien.
Pour essayer de résoudre un petit peu le problème, de les utiliser plus longtemps, d'acheter moins de vêtements neufs.
60, ça me paraît énorme.
Voilà. En fait, selon WWF, par exemple, il ne faudrait pas dépasser 3 à 8 vêtements neufs par an, c'est-à-dire par personne. Il ne faudrait pas acheter plus de 8 vêtements neufs par année. Donc, tu vois, on n'est pas très loin. On en parlait en antenne tout à l'heure, on n'est pas très loin de ce chiffre-là. Voilà, en tous les cas, une étude qui fait quand même un petit peu froid dans le dos, puisque tous ces vêtements se retrouvent à un moment ou un autre dans la nature, soit parce qu'ils sont jetés et abandonnés dans des pays où ils sont transportés, soit parce qu'ils sont incinérés et ça finit en cendres.
8 ans pour ne pas dépasser par an. Là, on a une dizaine par saison.
On est à 60 actuellement chaque année. Il faudrait passer à 8. Donc, ça voudrait dire qu'il faut réduire nettement la consommation de vêtements.
Oui, voilà, ce serait bien d'y penser en tout cas.
En tous les cas, une étude qui nous alerte sur le sujet.
Ouais.
À retrouver, bien sûr, en podcast, radiolac.ca.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radiolac.
Cars they hope they dream, yeah, everybody wants. No true friends, just alibis. What you have or what you buy, yeah, everybody wants. It's that feeling they always see. It's that the moment to feel it in. It's that the feeling that comes so strong. There's no limits for what.
Yeah.
avec Sophie Gaillard sur Radio Lac.
Il suffit de demander.
Il suffit de demander.
On fait le tour du système solaire avec Éric Ashka. Bonjour Éric.
Bonjour Sophie.
Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes astronome, vous avez aussi cofondé la Nuit est belle, hein, bien sûr, voilà. On le dit comme ça en passant parce qu'on ne l'avait pas dit. Un jeudi, une planète et on s'intéresse à la planète Mars aujourd'hui.
Alors, bonjour Sophie, oui, on va parler de la planète Mars, la fameuse planète rouge qui a rempli nos livres de science-fiction de petits bonhommes verts pendant de nombreuses années.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, la planète Mars a nourri l'imaginaire collectif parce que c'est une planète qui est pas loin de la Terre, déjà. Mmh, et puis, c'est son environnement est la moins hostile. Si l'on compare les quatre planètes du système solaire à surface solide, en écartant la Terre, qui est donc la troisième planète, c'est celle dont l'environnement est le moins hostile et qui permet à l'imaginaire humain de s'imaginer, se projeter, aller visiter la planète Mars.
Oui.
Alors, on va la décrire. On va décrire un petit peu sa fiche d'identité. La planète Mars fait la moitié du diamètre de la Terre, donc elle est un peu plus petite. Mmh. Elle a une surface donc solide. Elle fait 11% la masse de elle fait 11% le poids de la Terre, donc elle est beaucoup plus légère. Elle fait le tour du Soleil en 687 jours, donc à peu près 2 ans. Et un jour martien dure 24,6 heures. Donc quasiment comme la Terre, tout le fait que si l'on devait y aller, on aurait un cycle très proche celui de la Terre. Par contre, bien entendu, l'année ne dure pas un an, mais presque 2 ans. Sa surface est solide, il n'y a pas de lac ni d'océan à sa surface. Par contre, si l'on regarde sur Internet des photos prises de la planète Mars, on va s'apercevoir qu'il y a de nombreux canyons, il y a plus de liquide. Oui, il y a de nombreux canyons. On voit le lit de fleuve. Donc, on a déduit qu'il fut une période où il s'écoulait un fluide à la surface de Mars, de l'eau, par exemple. Et également, ce qui rend cette planète attractive pour éventuellement la visiter, c'est sa température à sa surface. Alors, sa température moyenne en surface est de moins 63 degrés, mais c'est quand même moins hostile que Mercure et que Vénus, avec un minimum à moins 125 et un maximum à plus 25.
Oui, quand même, ça va. C'est un peu comme la...
C'est une température proche de celle de la Terre.
De la Terre, hein, d'accord.
Et puis, c'est la planète des petits hommes verts, parce qu'il fut une période, lorsque on a observé Mars, on a vu des traces noires et on a pensé à des canaux. Ouais. Et donc, on s'est dit, s'il y a des canaux, c'est qu'il y a éventuellement une trace de vie. Et donc, de là, l'imaginaire humain a débordé en se disant, eh bien, il y a des petits bonhommes verts. Donc, d'où le fait que nous sommes partis en nous disant qu'il y a de la vie sur Mars. Et pour conclure, Mars a deux petites lunes. Et on reparlera la semaine prochaine de la lune de la Terre. Mars a deux petites lunes. L'une s'appelle Phobos et l'autre s'appelle Deimos. Elles sont toutes petites, bien plus petites en rapport de taille par rapport à la lune pour la Terre. Mais elle est dotée de 2 satellites.
Ah, oh, bah dis donc, on apprend des choses avec vous. Hein. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci, merci Sophie.
Même heure, même endroit, bien sûr. Et sinon, en podcast pour écouter les chroniques d'Éric et d'ailleurs de toutes les chroniques de Il suffit de demander, radiolac.ch, la page Il suffit de demander.
À la semaine prochaine.
Meilleur de lac en replay
sur radiolac.ch. And breathe.
Pop de Fabien et Carole.
Aujourd'hui, qui s'intéresse au travail, aux conditions de travail et parfois à l'épuisement au
exactement,
travail.
C'est bien ça, le burn-out. Et pour éviter justement l'épuisement au travail, il y a Hugh Jackman qui utilise la règle du 85%.
Hugh Jackman, c'est Wolverine.
Hugh Jackman, ouais. Exactement, l'acteur qui utilise cette règle du 85%. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de stars qui avouent avec franchise avoir été victimes de burn-out. Je trouve ça assez courageux de leur part. C'est vrai que l'épuisement professionnel, le fameux burn-out, c'est un stress chronique. En fait, qui peut frapper l'ensemble des professionnels. Et les stars ne sont pas en reste avec ça. Hein. Forcément, ils ont une pression aussi, des films à faire dans l'année. Et du coup, ils ne passent pas à côté du burn-out. Et ainsi, pour tenter de ne pas tomber dans ce cercle infernal, il y a une méthode utilisée notamment par Hugh Jackman qui est prônée. Son nom, tout simplement, c'est la règle des 85%.
Mais alors, c'est quoi? C'est 85% de temps en plus, 85% de boulot en moins? C'est quoi?
Alors, c'est justement bien de faire de gros efforts, voilà ce qu'il dit, mais pas en permanence, car personne ne peut constamment être à son maximum. C'est ce qu'il a expliqué. Ah. Il a indiqué que s'il a réussi à s'épanouir dans cette carrière, justement, d'acteur, ce n'est pas en se donnant à 100% tout le temps, mais en sachant s'économiser, en sachant se préserver.
Ok. Voilà. Donc, on n'est pas à 100%, on est un petit peu en dessous à 85%.
Exactement. C'est ça. Voilà. Il en a ainsi conclu que d'être moins stressé et au final, d'être beaucoup plus performant. Les athlètes d'élite aussi savent que si vous leur dites de courir, par exemple, à 85% de leur capacité plutôt qu'à 100%, ils finiront par mieux performer parce qu'ils seront détendus, ils n'auront pas ce stress. C'est une méthode qui permettrait donc de préserver sa santé mentale et surtout de se concentrer sur ce qui a vraiment du sens.
Je comprends exactement ce que tu dis quand tu parles d'athlètes d'élite, je me sens vraiment concernée.
J'imagine, moi aussi c'est pareil. Non mais je trouve que cette règle des 85%, elle est bien au final, de s'économiser un petit peu, et je trouve qu'on est, totalement dedans, mon Fabien. Je trouve qu'en fait c'est nous.
Mais complètement, moi je dirais que nous on s'économise, allez, on est en action, on est en rabais à 30% toute l'année. Nous,
c'est ça, 70-30, tout simplement. On est à 70% de nous-mêmes, quand on nous demande d'être à 100, on est là, et on est là, à 100, évidemment. Bien sûr.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Straight doesn't matter when you're mine. You are so tight, possible you're right. But I'm really happy, I'm really happy till you can see. But I'm really happy, I'm really happy till you can see. To me, whoa, oh, oh. Trying to give up, and I.
Maman ? Maman ? Maman ?
Hello, c'est Kitri Dulo sur Radio Lac. Retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Ramène sa science dont il suffit de demander.
Il suffit de demander.
Bonjour Eric Ashkar.
Bonjour Sophie.
Attention, vous avez laissé plein d'ADN sur votre chaise là.
Ah bah oui.
Ah bah oui, c'est normal.
Il y en a beaucoup.
Bah oui, on est tous pareils. Alors l'ADN, c'est incroyable. Alors, l'ADN, il faut quand même le dire, on en parle beaucoup dans les séries policières. C'est comme ça qu'on s'intéresse à l'ADN, voilà. Mais on va revenir aux sources de l'ADN. Et qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, l'ADN, on connaît les trois lettres, ADN.
Ouais.
ADN, ça veut dire tout simplement acide désoxyribonucléique. C'est un terme okay. très savant.
Oui.
Il y a aussi l'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Mais là, on va parler de l'ADN.
Oui.
Alors, l'ADN, c'est en fait la molécule qui va contenir l'information génétique d'une cellule,
okay.
qui se trouve dans le noyau de la cellule. Et l'ADN, en fait, quand on voit à l'école, en cours de biologie, on voit cette double hélice tourner.
Ah oui.
il y a deux barreaux, donc au lieu d'avoir l'hélice, imaginons qu'on la mette à plat, cette double hélice, c'est-à-dire qu'on enlève son côté spatial, on la mette à plat, comme une échelle, avec deux barreaux. Donc on a un barreau à droite, un barreau à gauche, et au milieu, on a les marches d'escalier, c'est-à-dire qui sont horizontales, donc les barreaux sont verticaux, et les marches d'escalier sont horizontales. Et là, on va aller dans le détail. Donc chaque branche va être constituée de nucléotides. Chaque nucléotide, dans sa composition, on va avoir des bases, et on aura quatre bases. Et ça, on le voit à l'école, on le voit, c'est A, C, T et G. A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine, et G pour guanine. Donc quand on voit des dessins de l'ADN, on va voir cette échelle, et sur chaque barre horizontale, on va avoir un A qui embrasse un T, on va avoir un G qui embrasse un C. Donc en fait, dans l'ADN, seul le A peut se marier avec le T, donc la base A se marie avec la base T, la base C, la cytosine, se marie avec la base G, la guanine. Donc ça veut dire en gros que quand on a un demi-ADN, donc seulement un côté, une barre verticale, on peut par déduction déduire l'autre côté. Et c'est comme ça que se répliquent les cellules, c'est-à-dire que l'ADN va s'ouvrir, les deux barreaux vont s'ouvrir, et par en fait les bases qui vont être présentes vont se mettre en face. Si on ouvre l'ADN d'un côté, on va avoir un A, de l'autre côté, très loin, on va avoir un T. Et bien, on va mettre en face du A qui se trouve tout seul un T, et de l'autre côté, sur l'autre barreau qui se trouve tout seul, on va lui mettre en face un A. Et donc, c'est ce qui va permettre de répliquer l'ADN. Donc, c'est la succession des lettres A, T, G, C qui va permettre de coder le gène.
Comment ça a été découvert, cet ADN, l'ADN ?
Alors, la structure de l'ADN a été découverte en 1953 par deux scientifiques en Grande-Bretagne, Watson et Crick, qui originellement ne travaillaient pas sur l'ADN, mais se sont intéressés au sujet et ont pu expliquer la structure juste par des radios de cristallographie rayon X de la molécule d'ADN qui leur ont permis d'établir le modèle de l'ADN, donc cette double hélice qu'on ne connaissait pas. Et puis ensuite, les découvertes qui en sont suivies, on a pu mieux expliquer le génome, sa réplication. Mais là, ça a été, je dirais, le point de bascule parce qu'on avait la structure spatiale de la molécule d'ADN qui était formulée à ce moment-là en 1953.
Et puis ça a été formidable déjà pour la police scientifique, pour confondre des meurtriers, ce qui a été le cas d'ailleurs dans une première affaire dans les années 80, je crois, en Angleterre. Et puis aussi en France, c'est l'ADN qui a permis de confondre le tueur de l'Est parisien, Guy Georges. Voilà, c'était vraiment tout début des années 90. Et puis bien sûr pour la recherche de paternité aussi. Enfin voilà, exactement. Et bien merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'ADN. Eric Ashkar, vous êtes à retrouver en podcast sur radiolac.ch et également l'application. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Sophie.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radiolac. Say
things were quiet, I can hear you breathe, you can feel the heat.
Alors, Fabien et Carole, on parle de quoi aujourd'hui ?
On parle de quoi aujourd'hui ?
On raconte souvent n'importe quoi dans
les
cette
conneries.
Émission.
Les conneries.
Mais on a aussi des infos très sérieuses,
Carole. Il
n'y
en a pas toujours des conneries. On sort de temps en temps des études de notre chapeau.
Oui.
Et aujourd'hui, je vous sors une étude qui va vous parler de notre cerveau, à nous, mesdames, nous, quand on a nos règles. Apparemment, selon une étude, notre cerveau change pendant notre période de menstruation. Attention. Alors, c'est vrai que les règles, ça demeure quand même un petit peu tabou. Encore, c'est très important encore ce tabou. Hein. Même en Suisse, hein, chez nous, par rapport aux pubs déjà, franchement, le liquide bleu, on en parle de ce liquide bleu.
Ça, ouais, et la sphaigne. Hein,
exactement.
Là, qui va souvent avec le liquide bleu.
Et dans ce contexte général, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites autour des règles, ce que je déplore un petit peu. Et là, il y en a une qui est sortie et qui s'est penchée sur les menstruations et les fluctuations dans la matière blanche et la matière grise dans notre cerveau. Mmh. Apparemment, des chercheurs ont observé une espèce de changement en fait, dans notre cerveau quand on avait nos règles et même avant les règles.
Parce que ça joue sur les hormones, ça on le sait.
Exactement. Voilà. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va quand même analyser les femmes, on va leur faire passer des scanners cérébraux et on va regarder un petit peu ce qu'il se passe à l'intérieur du cerveau quand justement elles sont en changement hormonal comme ça. Et des scans cérébraux ont été effectués durant à peu près 3 différentes phases du cycle menstruel, juste avant l'ovulation. Les changements dans la matière blanche laissent à penser qu'il existe une corrélation avec des transferts d'informations rapides. Donc ensuite, après l'ovulation, il y a une chute des hormones, forcément, ça on la connaît, et il y a un épaississement de la matière grise. Alors, je ne veux pas faire des raccourcis rapide, mais ça pourrait expliquer pourquoi on est si irrité.
Ah voilà, c'est ça la mauvaise humeur.
Irritable avant nos règles, j'ai le droit de le dire, je suis une femme. Et là c'est pareil, hein, en 2023, il faut prendre beaucoup de pincettes pour dire les choses. Mais voilà, c'est vrai que, on va pas se mentir mesdames, avant les règles, on est un petit peu tendu. Hein, on est un petit peu tendu. Et bien voilà, et ben, ça pourrait expliquer tout ça. Alors ça reste encore à étudier parce qu'on a, juste levé un lièvre, hein, mais ça ouvre néanmoins la voie de futures découvertes importantes pour des pathologies particulières. Oui, il se passe quelque chose au niveau hormonal dans notre cœur et dans notre corps, mais il se passe aussi quelque chose au niveau de notre matière grise et notre matière blanche dans notre tête. C'est quand même
incroyable. Voilà, et c'est passionnant et ça promet peut-être de belles découvertes à ce niveau-là. Dans
exactement. Et c'est super important parce qu'on a quand même ces périodes 450 fois dans une vie.
Mais c'est énorme.
450 fois.
Ça représente combien d'années à peu près ?
À peu près 38 ans.
Waouh.
Donc bon, c'est quand même assez important pour le souligner et surtout assez important pour en faire des études.
Ça vaut le coup de s'y pencher.
On est d'accord.
Exactement.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
suffit de demander.
Il suffit de demander.
Bonjour Marc-Antoine Bossart.
Bonjour Sophie.
Le vétérinaire du suffit de demander que vous retrouvez au cabinet Centre Vétérinaire des Sources à Genève. Alors on parlait de la voix. Nos animaux domestiques connaissent-ils notre voix? Les chats, les chiens, les perroquets.
Mais absolument, absolument.
Les lapins. Donc
les chats, les chiens, oui, plein d'autres animaux, les lapins, le cochon d'Inde, entendent notre voix et reconnaissent des inflexions de voix, surtout les chats, des inflexions de voix, des timbres de voix. Et donc, ils arrivent à reconnaître effectivement leur familier.
Ouais.
Pour ce qui est des chiens, il y a eu passablement d'examens, d'études qui ont été faites. Et donc, le chien, oui, il arrive à mémoriser entre 100 et, pour les plus futés, 300 mots
ah ouais, quand
de
même.
Notre vocabulaire, ouais. ce qui est largement impressionnant. Et donc, si vous voulez, il apprend d'abord dans des expériences positives, hein, lorsqu'on le caresse, lorsqu'on lui donne à manger, lorsqu'on joue avec lui. Et petit à petit, dans sa croissance, le chien associe en tout cas des situations avec des mots ou des mots avec des situations. Et c'est comme ça qu'il apprend. Après, donc on a réussi à tester, par exemple, sur des border collies qui arrivent à aller sur commande chercher un jouet dans la pièce d'à côté. Voilà, il va me chercher le crocodile, alors il ramène la pluche crocodile, l'éléphant, il ramène la pluche éléphant, et ainsi de suite.
Moi, ça me surprend moins sur les chiens, mais sur les chats, il paraît qu'ils reconnaissent notre voix et qu'ils nous entendent aussi si on arrive, par exemple, si on arrive en bas de l'immeuble, si on habite en copropriété. Il sait que c'est nous.
Voilà, ouais, ils arrivent même à apprendre le bruit du véhicule, la moto, la voiture, ça c'est sûr.
Ouais.
Et puis par rapport à des situations, oui aussi les odeurs évidemment. Mais oui, l'animal a des facultés vraiment. Quasiment incroyable pour retrouver son maître à la voix ou par rapport à l'environnement. Il y a, comme vous savez, des animaux aussi qui parlent, hein, les perroquets,
bien
les
sûr.
Ménates.
Ah bah. Ils reproduisent, les perroquets, les ménates, ils entendent ce qu'ils entendent à la maison.
Voilà,
ils reproduisent beaucoup.
Ils reproduisent beaucoup. L'éléphant comprend aussi. On donne des ordres.
On a moins souvent un
éléphant.
On a moins souvent un éléphant en compagnie.
Les dauphins, mais... par exemple.
Bah oui,
aussi,
bien sûr. Ouais.
Qui ont une grande intelligence.
Non, c'est intéressant.
Donc, c'est vraiment intéressant, voire même troublant.
Troublant, absolument. Ouais. Mais si on leur fait, oh le petit chien à sa maman, il comprend. Quand tu dis, oh qu'il est beau, c'est qui le bébé d'amour à sa maman? Parce que moi, je parle à mon chat toute la journée. Hein.
C'est-à-dire que l'animal, il a cette capacité.
Il doit dire, mais c'est que c'est le débile.
En quelque sorte, de vous scanner, Sophie,
oui.
et de percevoir quels sont, qu'est-ce qui s'échappe de votre poitrine.
Ouais.
Donc ça veut dire, si vous êtes heureuse, si vous êtes contrarié, si vous êtes triste, si vous êtes joyeuse, ça,
d'accord.
Il le sent tout de suite.
D'accord. Oui. Moi, je suis folle de mon chat.
Voilà.
Et toi, tu dois dire, elle est vraiment folle, mon humaine.
Voilà. Alors, quand vous avez une autre expression corporelle, là, ça le trouble.
Exactement. Merci beaucoup, Marc-Antoine.
Vous
êtes retrouvé en podcast sur radiolac.ch. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
deal with this pain, pain. I hate how it controls me. I don't think anything is gonna change, change. Oh, what am I doing so?
Le statoscope de Fabien et Carole.
Mieux dormir, c'est un peu le rêve que nous avons toutes et tous, surtout le matin, de bonne heure. On se dit, mais il faudrait quand même que j'arrive à mieux dormir plus longtemps et puis un sommeil un peu plus reposant. Hein. Ouais. Je crois qu'on aspire toutes et tous à la même chose. Comment faire pour mieux dormir? Il y a plein de théories, il y a plein d'études qui sont menées. Et là, on va s'intéresser à une étude très sérieuse qui a été menée pas très loin de chez nous, en Allemagne. Près de 3000 personnes qui ont été étudiées pendant plusieurs semaines. C'est vous dire un petit peu l'envergure de cette étude qui a été menée par des spécialiste du sommeil, ça c'est quand même un beau métier, spécialiste du sommeil.
C'est vrai que c'est pas mal.
Est-ce que eux dorment bien? Tu vois, c'est la question que je me pose.
C'est compliqué.
Ouais. Eh bien, en tout cas, ils nous alertent sur une chose, sur un des résultats de leur étude, qu'il faut faire durant la journée pour mieux dormir à la nuit. Carole, je te pose donc la question, quelle est cette chose à faire impérativement la journée pour mieux dormir la nuit?
Alors, pour le coup, j'aurais tendance à dire se séparer de son téléphone ou se libérer un petit peu des écrans. Quelques heures, même beaucoup d'heures avant l'endormissement. Je sais pas, non, je vois pas réellement ce qu'il ne... Alors, moi, je sais ce qu'il ne faut pas faire pour mieux dormir, mais ce qu'il faut faire pour mieux dormir, je sais pas, non.
L'amour.
L'amour ?
Non, je me plaisante, c'est pas ça. Non, mais ça peut aider, hein, ça peut aider,
oui,
avant,
ça peut aider
pour s'endormir,
avant de s'endormir.
Qui sait.
Ouais.
Mais il y a une chose à faire impérativement, si vous voulez être sûr de bien dormir la nuit qui suit, c'est une activité physique.
Oh
et
là, bah,
oui, je
sport.
Sais, c'est un peu rabat-joie.
Oh,
mais alors, du sport, mais pas seulement, hein, de l'activité physique, le simple fait de bouger,
de marcher.
Pas être trop sédentaire, statique. Voilà. Et ça, les spécialistes le confirment grâce à cette étude. Ils ont fait les choses assez simplement. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait un groupe de personnes qui avaient une activité physique chaque jour. De l'autre, des gens qui ne bougeaient pas beaucoup. Ils ont étudié leur sommeil dans chaque groupe et ils en sont arrivés à la conclusion très simple et vraiment très, très limpide, que les gens qui avaient une activité physique quotidienne dormaient mieux. Tout simplement.
Très bien.
Voilà, donc...
ceci dit, ça se... Ouais, pourquoi pas, hein.
Mais, tu sais, je me rappelle des choses qu'on nous disait quand on était enfant, quand on bougeait beaucoup, qu'on était sorti, qu'on avait profité du plein air. Nos parents nous disaient toujours, mais tu vas bien dormir ce soir. Et c'est vrai qu'on dormait bien.
C'est vrai.
Tu vois, c'est peut-être un truc qu'on a un petit peu oublié.
Oui.
Le fait de beaucoup bouger, pour plein de raisons. Alors, je ne vous donnerai pas toutes les raisons que détaillent les scientifiques, parce qu'il y a des choses qui sont assez médicales, tu vois, qui rentrent dans le détail du corps humain. Mais en tous les cas, voilà, la conclusion, elle est simple. Le fait de beaucoup... de s'activer tout simplement.
Oui, de marcher,
La petite demi-heure,
la petite
demi-heure de marche rapide.
On est d'accord. C'est vrai que ça peut faire du bien. Ouais, ça fait du bien et si ça peut aider à dormir, j'ai envie de dire.
Voilà, donc si
Pourquoi
vous
pas,
voulez.
Faut s'y mettre.
Si vous voulez mieux dormir, levez-vous de votre chaise de bureau, marchez un petit peu, essayez peut-être de faire les derniers mètres, derniers centaines de mètres.
Voilà, les 400 pas.
Ça, c'est bien.
Les 400 pas. Photocopieuse bureau. Vous faites ça à peu près 1000 fois et vous devriez bien dormir. Mais t'imagines, c'est compliqué quand même, hein, pour certains sédentaires ou certaines personnes vraiment clouées sur leur chaise toute la journée.
Vous faites-vous aider? Moi, par exemple, j'ai une montre connectée qui me rappelle de temps en temps de me lever, tu vois, si je reste trop assis.
Et tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes?
Non.
Ou est-ce qu'au bout d'un moment, voilà, tu dis
non.
Merde.
Alors, quand je peux, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, oui, je l'écoute.
Ouais.
Mais voilà, en tous les cas, ce sont des petits gestes, des petites choses qui peuvent vous aider à mieux dormir la nuit. Vous avez peut-être d'autres recettes secrètes que vous allez, eh bien, ce matin, partager avec nous. Voilà.